n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Philippe Moreau-Chauvrelet. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de communication politique à Sciences Po, président de MCBG Conseil. Alors, dans la perspective des élections européennes, républicains et socialistes ont tenu ce week-end leur premier grand meeting de campagne. La gauche socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann à Toulouse. Hier, c'était les républicains à Paris. Mais intéressons-nous aux centristes. François Bayrou, seul candidat, a été réélu pour 3 ans à la présidence du Modem lors du congrès du parti à Blois, sachant qu'il annonce 12 000 adhérents. Il y a 4 ministres Modem au gouvernement. Les centristes de l'UDI, viennent pour leur part de valider leur ralliement à la liste du camp macroniste. Ça veut dire, Philippe Moreau-Chauvrelet, que le centre dans la vie politique française existe bel et bien, après avoir largement contribué à la première élection d'Emmanuel Macron.
Oui, le centre existe, il existe même plus que jamais, parce qu'on peut estimer qu'il y a 3 blocs. En réalité, un bloc de gauche qui, pour l'instant, est dominé par LFI, un bloc de droite, extrême droite, qui est la recomposition en cours autour du RN, et puis un bloc central qui est incarné par les macronistes, et puis ce qui succédera bientôt aux macronistes.
Ce congrès du Modem qui avait lieu aujourd'hui à Blois a été pour le parti l'occasion d'aborder une de ses marottes, l'introduction de la proportionnelle dans la loi électorale. Raphaël Delvolvé, qui était sur place, nous en dit plus.
Devant le Modem, où la proportionnelle est défendue depuis longtemps, Yael Braun-Pivet est devant le bon auditoire.
Nous sommes durablement rentrés dans une nouvelle ère, dans laquelle le fait majoritaire deviendra l'exception et plus la règle. J'ai la certitude que cette juste représentation est l'un des meilleurs moyens de ramener nos compatriotes vers les urnes.
Faire élire un quart des 577 députés à la proportionnelle, un gage de représentativité pour les Français, dit la présidente d'une Assemblée nationale élue au scrutin majoritaire, mais où les extrêmes autrefois bloqués sont désormais en nombre. Le leader du Modem, François Bayrou, dit oui à la proportionnelle, mais pour tout l'hémicycle, précisément en raison du danger extrémiste.
C'est un garde-fou impossible à détruire contre les extrêmes. Si vous avez une menace d'un extrême ou de l'autre, à ce moment-là, les autres ont le devoir de se mettre ensemble pour faire barrage.
Dans l'assistance à Blois, Stéphane Séjourné, le patron du parti présidentiel Renaissance, ne commande pas. Les députés de la majorité vont évoquer mardi prochain la question de la proportionnelle. Leur chef, Sylvain Maillard, s'y oppose. Pour lui, cela force les élus à rester au parti pour une place sur la liste plutôt que sur le terrain.
Et puis, comme le Modem fait partie de la coalition gouvernementale, la tête de liste Renaissance, le parti du président Valérie Ayer, est venue à ce congrès, distancée dans les sondages par le RN. Elle a mis en garde contre le danger d'une victoire des populistes, le tout sans jamais nommer le RN, Jordan Bardella ou encore Marine Le Pen.
Je vais être très claire, ce serait la meilleure manière d'enclencher la chute de notre continent. Ce serait la meilleure manière de convaincre Poutine de poursuivre son agression et son entreprise de destruction. L'Europe doit être forte, ne jamais rien céder à ses patriotes de papier. L'amicale populiste poursuivra partout où elle le pourra, partout où nous la laisserons faire, son entreprise liberticide. Voulons-nous d'une Europe où les zones interdites aux LGBTI se multiplient ? Voulons-nous d'une Europe à la Viktor Orban où les femmes sont forcées d'écouter le cœur de leur fœtus ? Voulons-nous d'une Europe à la Elon Musk où les réseaux sociaux deviennent des déversoirs de haine ? Non. Non, ça n'est pas notre projet, ce ne sera jamais notre projet. Notre projet, c'est l'Europe des libertés qui intègre le droit à l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Notre projet, c'est l'Europe qui protège et qui inspire. C'est notre projet de société qui se joue aussi le 9 juin.
Philippe Moreau-Chauvrelet, il vient d'être question de la proportionnelle. Sachant que la politique intéresse de moins en moins les gens, et notamment les jeunes qui ne se sentent pas représentés, est-ce que l'introduction de cette proportionnelle serait de nature à les ramener vers les urnes ?
Probablement non, ce n'est pas la solution magique pour ça. Il faut un travail de fond, il faut notamment veiller à ce que tout le monde puisse s'inscrire beaucoup plus facilement sur les listes électorales, sache où aller voter, puisque c'est le mal-vote, ce qu'on appelle le mal-vote, c'est-à-dire la méconnaissance des capacités de voter, de l'endroit où il faut voter, qui est responsable d'une grosse partie de l'abstention. Il faudrait faire tout ça. La proportionnelle, c'est plus, comme l'a dit François Bayrou, un outil pour essayer de, si jamais le RN est élu en 2027, ne pas lui confier les pleins pouvoirs, comme c'est le cas actuellement, où l'Élysée a vraiment un rôle absolument central partout, dans tous les domaines de la vie publique.
On a entendu Valérie Ayer s'en prendre au RN sans le nommer. Il y a de cela quelques années, la vie politique française, elle était fracturée. Il y avait la gauche, il y avait la droite. Désormais, il semble que cela soit extrême droite et centre. C'est finalement l'affiche Bardella-Attal.
Oui, c'est extrême droite et centre. Alors, avec une inconnue qui est le score que va faire Raphaël Glucksmann, ce qui inquiète beaucoup les socialistes, pardon, oui, parce que la candidature qu'il représente monte dans les sondages de manière assez inquiétante pour le parti présidentiel et pourrait même peut-être, enfin, il y a une hypothèse qui lui permettrait de passer devant, d'être en deuxième position, ce qui serait vraiment une catastrophe absolue pour le parti du président. Donc la question, c'est de savoir quel sera le duo en tête entre le RN, qui est à peu près assuré d'être en première position, et une liste modérée, soit celle du président, soit celle de Raphaël Glucksmann.
La guerre en Ukraine continue de préoccuper la classe politique, notamment les annonces faites par le président de la République. Ce qui hérisse Éric Ciotti, le président du parti LR, qui vient de donner le coup d'envoi de sa campagne pour les européennes.
Aller sur ce terrain des troupes au sol, c'était irresponsable. Ça nous a conduit à un isolement humiliant d'ailleurs. On ne nous a pas pris au sérieux. Il a voulu replacer le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il a fait de ce conflit le sujet central de la campagne. Le pays a besoin de réponses responsables, sérieuses, n'ont pas besoin de ce cinéma de communication.
Cinéma de communication accusé ce matin sur Europe 1, Éric Ciotti. Philippe Moreau-Chauvrelet, vous êtes donc un spécialiste de la communication. Comment est-ce que vous analysez cette séquence? Est-ce que le chef de l'État a oublié de tourner cette fois sa langue dans sa bouche? Ou bien est-ce qu'il excelle dans la pratique du ballon d'essai en parlant du possible envoi de troupes au sol en Ukraine?
Il excelle dans l'art de créer des clivages qui deviennent incontournables pour ses adversaires. Ce qu'on a envie de dire à Éric Ciotti, c'est bien si lui a envie d'autres clivages, qu'il se batte pour les imposer. Le problème, c'est que le seul aujourd'hui qui impose, qui structure le débat public, c'est Emmanuel Macron. Donc il a lancé, en tant que chef de l'État, un clivage sur la Russie qui embarrasse beaucoup. Et c'est précisément fait pour embarrasser ses adversaires. Donc c'est très habile, au contraire. Il a beaucoup exagéré, il a surjoué comme il le fait toujours, Emmanuel Macron. D'abord parce que c'est sa marque de fabrique, il ne sait pas faire autrement. Et puis aussi pour bien marteler le message, il est très pédagogue à ce niveau-là et un peu jusqu'à la lourdeur presque dans la manière de surligner les messages politiques qu'il envoie.
Alors hier, à son congrès, LR a lâché ses coups contre le président de la République, justement. Il a été dit, on ne s'improvise pas chef de guerre avec des gants de boxe, raillant de récentes photos diffusées par l'Élysée. Alors, vous auriez pensé quoi, vous, de ces photos en noir et blanc d'Emmanuel Macron, aux muscles saillants, en rictus de combat, frappant dans un sac de boxe?
Alors, il y a plusieurs points. D'abord, la boxe, c'est violent, mais c'est un sport codifié. C'est un sport de gentleman. Donc on reste dans une violence, mais attention, elle est codifiée, elle est réglementée. Les macronistes ont beaucoup utilisé la communication de la boxe. Édouard Philippe l'a fait, Olivier Véran l'a fait aussi. Donc c'est une forme d'habitude chez eux, ça normalise un peu la démarche. Et le troisième point qui est plus étonnant, c'est que ça répond vraiment, mais image pour image, aux images de Vladimir Poutine, qui a fait les mêmes images devant le même sac de boxe. La différence, c'est qu'en France, on fait une image extraordinairement léchée, mise en scène, forcément qui a l'air un peu fausse, alors que du côté de Vladimir Poutine, où on sait faire de la communication populiste, la communication est un peu plus naturelle.
Merci pour ces analyses et commentaires, Philippe Moreau-Chauvrelet, président de MCBG Conseil. Revenons sur ce qui se passe à l'est de l'Europe. À Moscou, le bilan des victimes de l'attaque terroriste est passé, je le disais dans le journal, à 137 morts. Les condamnations ont été unanimes, y compris de la part des pays qui n'ont de cesse de dénoncer cette guerre que Vladimir Poutine mène en Ukraine. En France, membre du gouvernement et vice-président du parti Modem, Jean-Noël Barrot disait ceci ce matin sur France Inter.
La France, elle s'associe à la peine des victimes et des proches des victimes comme à celle du peuple russe, parce que nous ne confondons pas le régime de Vladimir Poutine avec le peuple russe, nous ne l'avons jamais fait. Le peuple russe lui-même subit d'ailleurs au quotidien cette guerre que Vladimir Poutine a lancée et au travers de laquelle il épuise son propre pays.
Alors pour cette guerre en Ukraine, les relations sont très tendues entre la France et la Russie. Emmanuel Macron a déclaré que l'envoi de militaires occidentaux en Ukraine ne pouvait pas être exclu. Et du côté russe, il y a la menace nucléaire qui est régulièrement brandie. Il y a aussi la menace contre la sécurité du président français s'il se rend en Ukraine. Franck Alexandre.
Les outrances russes se multiplient et gravissent à grands pas l'échelle de la provocation. Dernier exemple en date, l'affaire des petits soldats. Mardi 19 mars, raconte le journal Le Monde, l'ambassade de France à Moscou a reçu une boîte de jouets contenant des petits soldats aux couleurs de la Rosgardia, la garde prétorienne de Vladimir Poutine, chargée notamment du maintien de l'ordre en Ukraine occupée. Message, on ne peut plus clair, à l'adresse de la France, Paris est la bête noire du Kremlin. Mais les autorités françaises ne font pas cette fois le dos rond. Lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue suédois ce jeudi, le général Burkhard, chef d'état-major des armées, a réaffirmé que le soutien occidental pourrait aller au-delà de la seule livraison d'armes et il a lâché le mot « guerre » pour parler de la Russie.
La Russie est déjà un peu en guerre avec les pays occidentaux. Dans le champ des perceptions, la Russie, depuis déjà de nombreuses années, mène une guerre informationnelle pour déstructurer nos sociétés. Ça se traduit par des attaques cyber. Ce n'est pas forcément quelque chose qui cherche à promouvoir les idées russes, mais c'est plutôt quelque chose qui cherche à fragiliser les sociétés occidentales, et en particulier le modèle démocratique.
Afficher sa détermination, c'est déjà pour le général Thierry Burkhard gagner la guerre avant la guerre, et pour cela, il est prédit-il à prendre des risques. Message ferme et partagé par le chef d'état-major suédois, le général Michael Biden.
We have a war that is raging in Europe.
Nous avons une guerre qui fait rage en Europe. Pour moi, il est clair que cette réalité doit être au sommet de nos agendas. Nous ne pouvons pas laisser la guerre en Ukraine devenir une sorte de normalité et la laisser végéter sur la liste de nos priorités. Si nous le faisons, nous jouerons alors le jeu de la Russie. Naturellement, la Suède contribuera aux opérations de l'OTAN, dans les pays de l'OTAN, mais aussi au-delà. Nous devons regarder à 360 degrés. Bien sûr, nous vivons des moments difficiles, mais il ne faut pas désespérer et faire un effort conjoint. C'est la quintessence de mon message.
Après l'ambiguïté stratégique renouvelée sur l'envoi de soldats, second signalement stratégique de la conférence de presse des deux chefs d'état-major, la récente arrivée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, dit Thierry Burkhard, bouleverse les équilibres sur le flanc nord européen.
Quand la Suède et la Finlande basculent dans l'OTAN, ça modifie complètement la géométrie du champ de bataille. Ça rend un flanc nord beaucoup plus cohérent et beaucoup plus fort. Aujourd'hui, la mer Baltique, c'est un lac otanien, c'est exactement ça.
La France et l'OTAN montrent donc les muscles et face à une Russie belliqueuse, envoient à Moscou ce message: en attaquant l'Ukraine, la Russie a commis une erreur stratégique.
Et toujours concernant cette guerre en Ukraine, ces déclarations faites tout à l'heure lors du lancement de sa campagne électorale par le PS et Place Publique, Raphaël Glucksmann dénonce l'indolence des élites, dit-il, face à la Russie de Vladimir Poutine jusqu'à la guerre en Ukraine, puis l'esprit de capitulation visant en creux les insoumis lors du lancement donc de sa campagne tout à l'heure à Marseille.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Une photographie de la France d'aujourd'hui, c'est ce que propose la BNF jusqu'au 23 juin. La Bibliothèque nationale de France consacre une grande exposition à la France et aux Français au sortir de la crise sanitaire. 450 photos sont présentées. Elles ont été prises par 200 photographes de presse à l'initiative du ministère de la Culture. Isabelle Chenu les a vues pour nous.
Comment va la France? À quoi ressemble-t-elle au tournant des années 2020? 200 photojournalistes âgés de 22 à 82 ans sont partis sur les routes pour ausculter notre relation au travail, à l'écologie, à la culture, à l'école, aux soins, à la spiritualité. La photographe Alexa Brunet vit en Ardèche depuis une quinzaine d'années. Elle a rencontré des familles qui ont fait le choix de vivre autrement.
Le but étant d'avoir le moins d'impact possible sur la planète. La plupart n'ont pas de voiture, ils ont des panneaux solaires, ils font effectivement pousser le maximum de choses qu'ils peuvent manger eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui sont végétariens, mais il y en a qui chassent aussi. Ils visent l'autonomie alimentaire. Ce n'est pas toujours possible, mais il y a aussi ce besoin d'arriver à assumer ses propres besoins, que ce soit alimentaire ou énergétique, d'aller couper du bois et de se rendre compte de l'effort que ça représente de pouvoir se chauffer soi-même. Pareil, au niveau des enfants, la plupart font l'école à la maison, puisqu'ils sont aussi en rejet du système éducatif actuel.
Le photographe Stéphane Lagoutte regarde, lui, la communauté congolaise en France qui se rassemble autour de différents cultes.
Pour ce qui est des évangéliques, pour le coup, on est souvent dans des zones industrielles. Ce sont des hangars et qui, en fait, le dimanche après-midi, revêtent une forme de vie. On y fait des barbecues, on s'y rassemble, on prie. Mais quand on est avec les catholiques dans l'église Saint-Bernard, on est dans une église en pierre, c'est un tout autre décorum. Et quand on est avec les Ngunza, par exemple, c'est une petite salle louée du côté de la porte de la chapelle, donc c'est une petite salle très fermée. Donc là, ils jouent de la musique, ils sont plutôt en couleur rouge, alors que les Kibangis sont en vert, par exemple. La France, c'est ça aussi.
Le projet de Stéphane Gladieux s'appelle Littoral, une série sur les grandes vacances dans 55 stations balnéaires françaises.
Les vacances sont vraiment la saison des apparences. On va véritablement, quelque part, s'habiller, se théâtraliser, se mettre en scène dans nos propres vacances, jusqu'à devenir finalement une caricature de nous-mêmes, ou je préfère dire un archétype, que je trouve très touchant. Donc c'est vrai que j'ai choisi des gens dont l'apparence était assez marquée, assumée, des gens qui racontent quelque chose aussi de leur époque, de leur vie, et qui mettent en scène un petit peu ce moment essentiel dans la vie des Français.
Budget de la grande commande photographique, 5,5 millions d'euros. Au final, ce sont 2000 tirages inédits qui vont intégrer les collections de la Bibliothèque nationale de France. La BNF conserve une des plus grandes collections de photographies au monde.
Cette exposition s'intitule donc « La France sous leurs yeux » et c'est donc à voir la BNF jusqu'à la fin du mois de juin. Le Canada souffre d'une crise immobilière sans précédent. Le taux de logement libre est au plus bas et du coup les loyers montent. Calgary, ville de 2 millions d'habitants dans l'ouest canadien, est très touchée et a connu les plus importantes hausses de loyers, alors que plus de 1 million de mètres carrés de bureaux sont inoccupés. Alors le maire a décidé de reconvertir ses bureaux en logements. Voyons cela avec Léopold Picot.
Le centre-ville de Calgary a beau être désert, des bruits de chantier résonnent à chaque coin de rue. Un immeuble tout juste rénové trône à un carrefour. Il y a peu, ces 65 appartements étaient encore des bureaux. Kent House est le vice-président du Strategy Group, le promoteur en charge du projet.
Il a clairement fallu modifier certains plans d'appartements pour que ça marche. Il y a une plus grande variété de modèles en raison de la configuration du bâtiment. Pour celui-ci en particulier, il y avait une sortie de secours pour l'entrée et l'appartement prévu dans cette partie du bâtiment ne s'y insérait pas. Nous l'avons donc réaménagé, puis nous avons eu un appartement plus fonctionnel. Il faut vraiment être capable de s'adapter.
La conversion de bureaux a deux intérêts, participer à l'atténuation de la crise du logement tout en évitant de construire neuf.
L'aspect environnemental est très important pour les gens. Les quatre bâtiments que nous convertissons représentent 17 000 tonnes de gaz à effet de serre. Nous les conservons et environ 60 000 tonnes de matériaux de construction ne partiront pas à la décharge. La conversion d'un bâtiment par rapport à la construction d'une maison est très différente.
Strategy Group envisage le projet en 2018. Un an et demi plus tard, les premiers locataires emménage.
Ce projet était exemplaire. Nous avons fait les plans en 4 mois environ, puis demandé les permis. La ville a été formidable. Il nous a fallu un mois pour les avoir et moins de 12 mois pour achever la construction.
Les bureaux de Calgary ont commencé à se vider dès 2014, rappelle Nathalie Murcher, responsable municipale de la stratégie pour le centre-ville. Mais il y a 4 ans, le phénomène s'est accéléré.
Le nombre de bureaux vacants a continué à augmenter d'année en année. Et puis, bien sûr, la pandémie a frappé. Ça a aggravé le problème. À son plus haut niveau, le taux d'inoccupation des bureaux du centre-ville était d'environ 34%. Cela représentait 1 300 000 mètres carrés d'espace de bureaux vides. C'est alors que la ville a mis en place sa stratégie pour le centre-ville.
En 2021, la ville a débloqué plus de 150 millions de dollars canadiens de subventions aux promoteurs. Ils reçoivent 75 dollars pour chaque pied carré de bureau converti en logement.
On commence à voir le nombre de bureaux vacants diminuer. C'est super. On est à environ 29%. C'est dû en partie à nos projets de conversion. Tous ces projets suppriment environ 186 000 m² d'espace de bureau et les convertissent en logement. Notre objectif est de supprimer 560 000 m² de bureaux dans le centre-ville d'ici à 2031.
L'intérêt pour Calgary n'est pas seulement de lutter contre la crise du logement. La désertion des bureaux a fait perdre plus de 116 millions de dollars de revenus fiscaux à la ville en 6 ans. Léopold Picot, Calgary, RFI.
Dans 30 secondes sur RFI, ce sera l'actualité en Afrique.